ფრანგული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. ფრანგული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. იმ შემთხვევაში, თუ ჩანაწერი ცუდად ისმის, გთხოვთ ახლავე აცნობოთ მეთვალყურეს. თქვენ მონიტორზე დაინახავთ მოსმენის დავალების შეკითხვებს. გთხოვთ მოუსმინოთ აუდიო ჩანაწერს და ისე შეასრულოთ დავალება.
Exercice numéro 1. Compréhension orale. Vous allez écouter une interview avec Fabrice Lucchini. Complétez les affirmations suivantes par les éléments qui manquent. Un ou deux éléments par affirmation. Vous écouterez l'enregistrement deux fois. Vous avez maintenant 45 secondes pour lire les affirmations.
Fabrice Lucchini, acteur, comédien et grand amateur de Céline. Nous l'avons rencontré pour vous. Fabrice, parlez-nous un peu de votre enfance.
J'ai grandi à Paris. J'habitais dans le 18e arrondissement, à Barbès, un quartier populaire avec des gens plutôt pauvres que riches. Ma famille n'était pas du tout riche, alors je me sentais très bien dans mon quartier. Dès mon enfance, moi-même issu d'une famille d'immigrés, j'étais entouré d'enfants de différentes origines, arabes, juifs. Mon papa vendait des fruits et des légumes. Ma mère s'occupait de moi.
Comment était le petit Fabrice à l'école? Un bon ou un mauvais élève?
Un très mauvais élève. En cours de français, je n'arrivais pas à faire la différence entre les mots passifs et actifs. Et puis, alors les mathématiques, quand les gens disaient « si X dit », déjà je me disais « mais pourquoi ils me disent X ?» J'avais 13 ans quand on m'a renvoyé de l'école. J'ai eu un certificat d'études. Ce n'est même pas un brevet. Donc, il n'y avait même pas le bac comme projet.
Alors, pas de bac, pas d'études. J'imagine, vous vous êtes mis au travail très tôt. Quel était votre premier métier?
Coiffeur. Ma mère a ouvert un journal et elle a vu une annonce. On recherche un apprenti coiffeur. Elle a fait attention à l'adresse, avenue Matignon. C'est dans les quartiers chics et nous, on n'était pas du tout riche. Mais au lieu de haïr les riches, elle a eu un petit instinct de dire « il vaut mieux qu'il soit placé là ». Donc, elle m'a amené chez le coiffeur. C'était un monsieur qui ressemblait à Georges Brassens. C'était un grand coiffeur, qui s'appelait Jacques France, et il m'a dit « la première chose, si je vous prends, il faudra faire pousser vos cheveux ». Et c'était un miracle dans ma tête, parce que c'était les premiers temps des Beatles. Et j'allais avoir le droit de me faire pousser les cheveux.
Et le cinéma, c'est venu tout de suite ou vous avez mis du temps? Comment avez-vous obtenu votre premier rôle au cinéma?
Alors je suis coiffeur, j'ai 16-17 ans. Mais je danse au whisky à gogo. J'essaie d'imiter James Brown. Un jour, j'anime la boîte à Angoulême et là, il y a un monsieur qui me regarde. Il s'appelle Philippe Labro et il me propose de faire de la figuration dans son film. C'est grâce au hasard que je quitte la coiffure, à laquelle je commençais déjà à m'habituer pour devenir comédien, le métier que je n'ai jamais connu. C'était tellement inattendu que je n'y croyais même pas.
Ça vous est arrivé au moment où faire du cinéma était considéré comme une grande réussite, comme un rêve. Vous en avez rêvé de devenir comédien?
Jamais de la vie. Rêver de quoi? Le mot comédien, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Nous, on n'avait qu'une ambition à notre époque. Fumer du shit, aller à Katmandou et finir en Iran. Surtout pas penser à la carrière.
Alors, votre carrière de comédien aurait pu s'arrêter à ce moment-là et on n'aurait pas connu Fabrice Lucchini, comédien professionnel?
Oui, ça aurait été bien possible, mais quelques temps après ma première apparition sur l'écran, j'ai eu mon deuxième rôle. C'était très bizarre, tout s'est très vite passé. Un ami est venu me voir pour me dire que des gens du cinéma voulaient parler avec moi. Donc, j'ai été convoqué par Éric Rohmer. Je ne savais pas du tout qui c'était, ni ce qu'il avait envie de faire. On m'a dit que c'était un des grands réalisateurs de la nouvelle vague. Il m'a donné un rôle dans Le Genou de Claire, et là, j'ai senti que cela ne s'arrêterait plus.
Alors, comment avez-vous découvert votre vocation ?
Après mes deux petits rôles au cinéma, des agents se sont intéressés à moi en me disant que j'étais plutôt fait pour le théâtre et que je n'aurais jamais de carrière au cinéma. Au début, cette idée ne m'a pas beaucoup plu. J'ai été même un petit peu fâché contre mes agents, mais finalement, j'ai suivi leurs conseils et je me suis retrouvé avec Jean-Laurent Cochet, le plus grand professeur. Ça, c'est un des moments essentiels de ma vie. C'est la découverte. J'ai 24 ans. J'arrête de fumer du shit. J'arrête tout parce que j'ai découvert. Je sais qu'il y a un but, le but de devenir un acteur, un comédien, c'est-à-dire qui va se confronter à Racine, à Molière, au rap, à tout. J'ai découvert que tout d'un coup quelque chose m'intéressait, que ça demanderait beaucoup de sacrifices. C'est comme un homme qui rentre dans les ordres.
Déconseillé pour le cinéma, comment vous y avez réussi ?
Pendant 20 ans, j'ai fait des choses, mais au cinéma ça ne marchait pas. Et puis un jour, quelqu'un m'a donné un scénario qui s'appelait La Discrète, c'était en 1990. Et là, c'était un rôle qui m'allait bien. Tout ce qui était mes défauts pour les uns sont devenus mes qualités. Et là, toute ma vie a changé.
Merci beaucoup pour cet entretien. Au revoir.
Au revoir.
Fabrice Lucchini, acteur, comédien et grand amateur de Céline. Nous l'avons rencontré pour vous. Fabrice, parlez-nous un peu de votre enfance.
J'ai grandi à Paris. J'habitais dans le 18e arrondissement, à Barbès, un quartier populaire avec des gens plutôt pauvres que riches. Ma famille n'était pas du tout riche, alors je me sentais très bien dans mon quartier. Dès mon enfance, moi-même issu d'une famille d'immigrés, j'étais entouré d'enfants de différentes origines, arabes, juifs. Mon papa vendait des fruits et des légumes. Ma mère s'occupait de moi.
Comment était le petit Fabrice à l'école ? Un bon ou un mauvais élève ?
Un très mauvais élève. En cours de français, je n'arrivais pas à faire la différence entre les mots passifs et actifs. Et puis, alors les mathématiques, quand les gens disaient « si X dit », déjà je me disais « mais pourquoi ils me disent X ?» J'avais 13 ans quand on m'a renvoyé de l'école. J'ai eu un certificat d'études. Ce n'est même pas un brevet. Donc, il n'y avait même pas le bac comme projet.
Alors, pas de bac, pas d'études. J'imagine, vous vous êtes mis au travail très tôt. Quel était votre premier métier ?
Coiffeur. Ma mère a ouvert un journal et elle a vu une annonce. On recherche un apprenti coiffeur. Elle a fait attention à l'adresse, avenue Matignon. C'est dans les quartiers chics et nous, on n'était pas du tout riches. Mais au lieu de haïr les riches, elle a eu un petit instinct de dire « il vaut mieux qu'il soit placé là ». Donc, elle m'a amené chez le coiffeur. C'était un monsieur qui ressemblait à Georges Brassens. C'était un grand coiffeur qui s'appelait Jacques France et il m'a dit « la première chose, si je vous prends, il faudra faire pousser vos cheveux ». Et c'était un miracle dans ma tête parce que c'était les premiers temps des Beatles. Et j'allais avoir le droit de me faire pousser les cheveux.
Et le cinéma, c'est venu tout de suite ou vous avez mis du temps ? Comment avez-vous obtenu votre premier rôle au cinéma ?
Alors je suis coiffeur, j'ai 16-17 ans. Mais je danse au whisky à gogo. J'essaie d'imiter James Brown. Un jour, j'anime la boîte à Angoulême et là, il y a un monsieur qui me regarde. Il s'appelle Philippe Labro et il me propose de faire de la figuration dans son film. C'est grâce au hasard que je quitte la coiffure, à laquelle je commençais déjà à m'habituer pour devenir comédien, le métier que je n'ai jamais connu. C'était tellement inattendu que je n'y croyais même pas.
Ça vous est arrivé au moment où faire du cinéma était considéré comme une grande réussite, comme un rêve. Vous en avez rêvé de devenir comédien ?
Jamais de la vie. Rêver de quoi? Le mot comédien, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Nous, on n'avait qu'une ambition à notre époque. Fumer du shit, aller à Katmandou et finir en Iran. Surtout pas penser à la carrière.
Alors, votre carrière de comédien aurait pu s'arrêter à ce moment-là et on n'aurait pas connu Fabrice Luchini, comédien professionnel?
Oui, ça aurait été bien possible, mais quelque temps après ma première apparition sur l'écran, j'ai eu mon deuxième rôle. C'était très bizarre, tout s'est très vite passé. Un ami est venu me voir pour me dire que des gens du cinéma voulaient parler avec moi. Donc, j'ai été convoqué par Éric Rohmer. Je ne savais pas du tout qui c'était, ni ce qu'il avait envie de faire. On m'a dit que c'était un des grands réalisateurs de la nouvelle vague. Il m'a donné un rôle dans Le Genou de Claire, et là, j'ai senti que cela ne s'arrêterait plus.
Alors, comment avez-vous découvert votre vocation ?
Après mes deux petits rôles au cinéma, des agents se sont intéressés à moi en me disant que j'étais plutôt fait pour le théâtre et que je n'aurais jamais de carrière au cinéma. Au début, cette idée ne m'a pas beaucoup plu. J'ai été même un petit peu fâché contre mes agents, mais finalement, j'ai suivi leurs conseils et je me suis retrouvé avec Jean-Laurent Cochet, le plus grand professeur. Ça, c'est un des moments essentiels de ma vie, c'est la découverte. J'ai 24 ans, j'arrête de fumer du shit. J'arrête tout parce que j'ai découvert. Je sais qu'il y a un but, le but de devenir un acteur, un comédien, c'est-à-dire qui va se confronter à Racine, à Molière, au rap, à tout. J'ai découvert que tout d'un coup quelque chose m'intéressait, que ça demanderait beaucoup de sacrifices. C'est comme un homme qui rentre dans les ordres.
Déconseillé pour le cinéma, comment vous y avez réussi ?
Pendant 20 ans, j'ai fait des choses, mais au cinéma ça ne marchait pas, et puis un jour, quelqu'un m'a donné un scénario qui s'appelait La Discrète, c'était en 1990. Et là, c'était un rôle qui m'allait bien. Tout ce qui était mes défauts pour les uns sont devenus mes qualités, et là toute ma vie a changé.
Merci beaucoup pour cet entretien. Au revoir.
Au revoir. Exercice numéro 2. Compréhension orale. Vous allez écouter le témoignage de 4 personnes concernant l'importance de l'apprentissage des langues étrangères. Associez les 4 témoignages aux affirmations correspondantes. Attention, il y a 2 affirmations de trop. Vous écouterez l'enregistrement 2 fois. Vous avez maintenant 30 secondes pour lire les affirmations. Première personne. Parler une ou plusieurs langues étrangères est un excellent moyen de multiplier ses opportunités d'obtenir un emploi. Les compétences en langue étrangère sont très prisées dans certains secteurs, comme le tourisme, la banque, la distribution, le commerce, les métiers de l'accueil ou de l'hôtellerie, ou encore pour certains postes liés à l'administratif. Assistante de direction, responsable du personnel, etc. À noter que la maîtrise d'une langue rare peut être précieuse et peut permettre de décrocher des postes dans des secteurs de niche. Ce savoir peut être source de mobilité à l'international, multipliant ainsi les opportunités d'emploi et de trouver l'emploi qui correspond le mieux à vos attentes. Deuxième personne.
Apprendre d'autres langues devient une nécessité. Mais on ne peut que s'en réjouir, car cela aurait également un impact très positif sur la santé. L'apprentissage d'une langue étrangère impacte durablement nos structures mentales, avec des effets parfois très bénéfiques. Selon de récentes études, une croissance significative dans différentes zones du cerveau est aperçue après seulement 3 mois d'apprentissage d'une langue étrangère. Et plus l'enseignement est intensif, plus la progression cérébrale sera effective. Apprendre et pratiquer quelque chose, par exemple une deuxième langue, renforce le cerveau. Comme l'exercice physique, plus on utilise une zone spécifique de son cerveau, plus elle se développe et se renforce.
Troisième personne. Sans doute l'un des aspects que je trouve les plus intéressants. Chaque langue est associée à une façon de penser, une manière spécifique de voir le monde. Il suffit d'allumer la télévision pour voir avec quelle facilité nous portons des jugements à l'emporte-pièce sur certaines cultures, sur des mentalités que nous n'essayons même pas de comprendre. S'ouvrir aux civilisations étrangères est une occasion de remettre les choses en perspective, de regarder l'autre avec un œil neuf et plus tolérant, tout en développant son esprit critique vis-à-vis de notre système français, pas forcément exempt de reproches. Quatrième personne.
C'est presque une évidence. Apprendre à parler plusieurs langues vous permettra de découvrir le monde par vous-même. Adieu le tourisme façon Club Med. Vous aurez la possibilité d'interagir réellement avec la population et de vous faire des amis que vous n'auriez pas rencontrés autrement. De plus, maîtriser la langue du pays rendra votre voyage plus intéressant. Non seulement vous aurez l'occasion de discuter avec des personnes ne parlant pas forcément français, mais vous aurez également accès à des services, transport, hébergement, alimentation, plus intéressants et moins chers que ceux proposés aux touristes.
Première personne. Parler une ou plusieurs langues étrangères est un excellent moyen de multiplier ses opportunités d'obtenir un emploi. Les compétences en langue étrangère sont très prisées dans certains secteurs, comme le tourisme, la banque, la distribution, le commerce, les métiers de l'accueil ou de l'hôtellerie, ou encore pour certains postes liés à l'administratif. Assistante de direction, responsable du personnel, etc. À noter que la maîtrise d'une langue rare peut être précieuse et peut permettre de décrocher des postes dans des secteurs de niche. Ce savoir peut être source de mobilité à l'international, multipliant ainsi les opportunités d'emploi et de trouver l'emploi qui correspond le mieux à vos attentes. Deuxième personne.
Apprendre d'autres langues devient une nécessité. Mais on ne peut que s'en réjouir, car cela aurait également un impact très positif sur la santé. L'apprentissage d'une langue étrangère impacte durablement nos structures mentales, avec des effets parfois très bénéfiques. Selon de récentes études, une croissance significative dans différentes zones du cerveau est aperçue après seulement 3 mois d'apprentissage d'une langue étrangère. Et plus l'enseignement est intensif, plus la progression cérébrale sera effective. Apprendre et pratiquer quelque chose, par exemple une deuxième langue, renforce le cerveau. Comme l'exercice physique, plus on utilise une zone spécifique de son cerveau, plus elle se développe et se renforce.
Troisième personne. Sans doute l'un des aspects que je trouve les plus intéressants. Chaque langue est associée à une façon de penser, une manière spécifique de voir le monde. Il suffit d'allumer la télévision pour voir avec quelle facilité nous portons des jugements à l'emporte-pièce sur certaines cultures, sur des mentalités que nous n'essayons même pas de comprendre. S'ouvrir aux civilisations étrangères est une occasion de remettre les choses en perspective, de regarder l'autre avec un œil neuf et plus tolérant, tout en développant son esprit critique vis-à-vis de notre système français, pas forcément exempt de reproches. Quatrième personne.
C'est presque une évidence. Apprendre à parler plusieurs langues vous permettra de découvrir le monde par vous-même. Adieu le tourisme façon Club Med. Vous aurez la possibilité d'interagir réellement avec la population et de vous faire des amis que vous n'auriez pas rencontrés autrement. De plus, maîtriser la langue du pays rendra votre voyage plus intéressant. Non seulement vous aurez l'occasion de discuter avec des personnes ne parlant pas forcément français, mais vous aurez également accès à des services, transport, hébergement, alimentation, plus intéressants et moins chers que ceux proposés aux touristes.
Fin de l'exercice de compréhension orale. Merci.
Մոսմենիս դավալեբա դասրուլ է բուլիա.